Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Alexia Germont, avocate, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Vous êtes également adjointe au maire du 15e arrondissement, en charge du développement économique des entreprises et de l'emploi. Bonsoir. Alexia Germont, ce mercredi, le gouvernement a présenté la loi qui conforte les principes républicains, une loi présentée le jour anniversaire de la loi de 1905. Ce texte a changé de nom puisqu'à l'origine, il était désigné comme une loi contre le séparatisme. À vos yeux, vous qui êtes avocate, qu'est-ce qui est le plus important dans ce projet de loi qui doit conforter les principes républicains ?
Alors écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, je crois, sur ce projet de loi qui est très intéressant parce que déjà, dans la symbolique du changement de nom, on voit bien que la notion de séparatisme est une notion qui est plutôt évidemment négative. On a évolué vers quelque chose qui était plus rassembleur, avec une sémantique qui était plus transversale et qui est censée être plus positive puisqu'il faut conforter les principes républicains. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans la démarche, même si ça ne veut pas dire que, et quelle qualité aurais-je d'ailleurs pour le faire, mais ça ne veut pas dire que vous donnez un blanc-seing à l'ensemble des dispositions. C'est simplement dans la démarche que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un texte d'abord qui est pragmatique et qui est assez transversal. Et comme toujours, vous connaissez le prisme des juristes, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir à la fois la structuration en fait de ce projet de loi avec deux grands thèmes. C'est un projet de loi qui est très conséquent, hein, bien sûr, puisqu'il y a plus d'une cinquantaine d'articles, mais avec deux grands thèmes qui sont isolés. Vous avez à la fois d'un côté la notion de garantie du respect des principes républicains, qui se décline bien sûr, et puis vous avez une seconde garantie qui est la garantie de la libre du libre exercice du culte. Donc ce sont les deux grands piliers qui sont travaillés par ce projet de loi. Alors sur la garantie du libre exercice du culte, vous avez à la fois tout un volet sur renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte, et puis vous avez aussi renforcé la préservation de l'ordre public. Et sur le premier volet, sur lequel on voit beaucoup de commentaires fleurir, c'est aussi la garantie du respect donc des principes républicains. Là, ça se décline, et c'est là où on voit bien la notion de transversalité, je trouve, en six chapitres distincts. Vous allez avoir tout un pilier sur le service public, qui est le bras armé de l'impartialité de l'État. Vous allez avoir tout un sujet autour du meilleur encadrement des activités associatives quand elles bénéficient de subventions publiques. Un volet également sur la protection de la dignité de la personne humaine. Et puis, des volets éducation, logement et enfin, le combat contre la haine en ligne, qui est un sujet, bien sûr, qui a été renforcé suite aux événements tragiques liés à la disparition du professeur Samuel Paty. Donc, vous voyez déjà qu'à travers l'architecture, je trouve, du projet de loi, vous voyez quels sont les points sur lesquels le gouvernement a souhaité intervenir, avec, puisque vous me posez une question précise, j'essaye d'y répondre de façon précise également, en pratique, quels sont les points qui me paraissent les plus importants et qui ne sont pas forcément ceux que l'on voit le plus communément repris en fait dans les commentaires ces derniers jours, étonnamment je dirais. Bon, bien sûr, il y a le nouveau délit pour réprimer la haine en ligne. Ça, on en a beaucoup parlé. Ça, c'est un point structurant. Ensuite, ce que je trouve très intéressant, c'est le principe de neutralité religieuse des agents de droit privé qui sont chargés d'une mission de service public. Vous avez enfin tout le volet sur la meilleure transparence des cultes, notamment avec tous les aspects d'ordre financier. Là, il y a beaucoup de choses à dire, des choses qui sont pragmatiques et très intéressantes. Vous avez l'interdiction de délivrance du certificat de virginité qui est du point de vue symbolique quelque chose, je ne sais pas si vous voudrez qu'on y revienne, mais qui me paraît intéressant quand même. Et enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que ça c'est un point, on voit bien avec une approche pragmatique, c'est le contrôle renforcé des fédérations sportives. On passe d'un régime de tutelle à un régime de contrôle. Ça c'est très important parce que le milieu associatif et notamment sportif est très large en France. C'est plus de 13 ou 15 millions de pratiquants, donc ça couvre aussi un volet très important.
Alexia Germont, le Premier ministre, a expliqué que c'était bien l'islamisme politique qui était visé principalement par ce texte. Est-ce qu'il aurait fallu l'inscrire noir sur blanc dans le projet de loi ?
Alors ce n'est pas une question piège, mais c'est une question qui mérite un peu de recul. Pourquoi ? Je pense que pour des raisons juridiques, politique et peut-être même diplomatique, on voit bien pourquoi l'islamisme radical n'a pas été pointé du doigt. Parce que il y a une notion d'abord, c'est un sujet qui est délicat, qui nécessite beaucoup de mesures. Du point de vue juridique, ça aurait risqué de fragiliser ce projet de loi. On sait que du point de vue politique, il y aura certainement des amendements de part et d'autre qui vont être proposés avec un début 2021 au Parlement qui, de ce point de vue-là, sera extrêmement... ce sera certainement un combat difficile. Et puis, il faut se souvenir, suite à l'assassinat de Samuel Paty, les difficultés diplomatiques à laquelle la France a été... confrontée. Donc ça explique certainement finalement la fragilité de l'explication de texte qui a été donnée par le gouvernement. J'ajoute que de ce point de vue-là, j'ai trouvé que l'avis rendu par le Conseil d'État qui a été rendu public, qui est très long, très instructif, j'ajoute que cet avis éclaire justement la réponse qu'on peut apporter à votre question. Parce que justement, le Conseil d'État juge qu'il y a eu assez peu finalement d'explications de textes donnés, notamment dans l'exposé des motifs de la loi, et que pour une meilleure compréhension, il faudrait peut-être muscler avant la présentation du projet de loi au Parlement, il faudrait muscler ces aspects-là. Donc, tout le monde est au courant, en fait, évidemment, de la réalité, de la nécessité, en fait, de remettre un cadre strict, présenté de façon plutôt positive, non discriminante, évidemment, qui puisse plutôt emporter dans un mouvement républicain l'ensemble des parties prenantes. Mais il reste que toute l'explication au texte qui a été faite autour, y compris par le dossier de presse donné par Matignon, montre bien que c'est en réponse à un séparatisme et parfois même à une volonté qui va au-delà, qu'elle soit exprimée de façon intentionnelle ou non. Vous avez différentes gradations en fait dans cette notion de séparatisme, et c'est en réponse à cela que ce texte a été pris. Donc, pour répondre très précisément à votre question, Loïc Maria, moi je pense que c'était bien de ne pas ostraciser, c'était bien de protéger juridiquement finalement la validité juridique de ce texte, mais qu'il faut en revanche, à mon sens, donner plus de corps à l'exposé des motifs, c'est-à-dire au préambule de cette loi, parce que les préambules qui sont toujours mis qui sont rédigés en préalable au texte de loi, donnent quand même le contexte dans lequel un projet de loi est proposé et permet justement de bien comprendre quels sont les aboutissements espérés et en quoi ce projet de loi peut permettre de donner plus de force aux principes républicains qui sont fragilisés aujourd'hui. Ça, je le crois profondément, et qui doivent être aujourd'hui confortés.
Alors, Alexia Germont, vous venez de dire que les principes républicains étaient fragilisés. Pour conforter ces principes, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, et peut-être surtout, faire vivre la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, pour de nombreux jeunes issus des quartiers populaires? L'ascenseur social ne fonctionne pas, les services publics sont défaillants et l'école n'est pas toujours à la hauteur.
Bien sûr, c'est un tout. C'est un tout, mais qui ne doit pas être vécu, c'est-à-dire que chacun doit prendre sa part de la responsabilité du non-fonctionnement. J'essaye de faire une analyse qui n'est pas du tout sur le plan politique, mais qui est plus sur le plan des idées et le plan du fonctionnement. On a l'habitude de faire cela au travers du think tank France Audacieuse. Donc j'essaie de prendre du recul sur ces sujets qui sont éminemment difficiles. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Conseil d'État a lui-même souligné la pertinence de votre question, quelque part, puisque je rappelle à vos auditeurs que dès 2018, dans son étude annuelle de 2018, le Conseil d'État parlait d'être un citoyen aujourd'hui. Et il mettait en exergue le fait qu'il y avait une fragilisation, bien sûr, donc de ce parcours républicain, en précisant que ce n'était pas justement qu'avec les notions de répression ou donc avec les instruments législatifs que l'on pouvait éventuellement mettre en place, donc que ça soit sur le volet préventif ou sur le volet répressif, que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que la réponse nécessite, au-delà des mesures législatives, la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes et notamment des collectivités et des politiques publiques. Et là, d'ailleurs, on voit d'ailleurs dans la façon dont le texte est proposé, vous avez déjà des petits cailloux qui répondent à votre question. Des petits cailloux qui doivent être évidemment considérablement musclés. C'est-à-dire que vous avez la question sur le logement social, par exemple, qui est abordée. Vous avez la question de l'éducation. Va y revenir. Vous avez l'ensemble en fait des paramètres qui constituent ce qu'il faudrait mettre en place à travers une politique publique ambitieuse. Mais on ne doit pas, à mon sens, s'arrêter là et présenter cela comme étant non plus une culture de l'excuse. C'est-à-dire que évidemment, il faut qu'il y ait un terreau qui permette de faire vivre notre devise républicaine, mais en totale acceptation et avec un volontarisme de tout à chacun de s'intégrer dans la devise républicaine. C'est ça la difficulté, parce que là où on doit en venir, c'est finalement un fragile équilibre. Et si vous arrivez à avoir cet équilibre, là, oui, vous pouvez essayer de faire bouger les choses, sachant que quand même, il faut se souvenir que le plan Borloo, par exemple, pour les banlieues, et ce n'est pas pour restreindre le propos au plan banlieue, hein, mais on voit bien que c'était un des moyens qui était aussi mis en avant pour essayer de faire vivre cette devise républicaine. Bon, à l'époque, ça avait été balayé d'un revers de main par le président de la République qui, depuis, je pense, a compris qu'il y avait un grand plan d'ensemble qui devait être remis au goût du jour pour pouvoir répondre à ces difficultés. Alors, vous disiez en introduction, et je finirai par là sur ce point-là, vous disiez en introduction que j'avais aussi un rôle d'élu en charge du développement économique des entreprises et de l'emploi. Il est clair que il n'y a pas meilleur facteur d'intégration sociale que l'emploi. Que l'emploi, que la façon dont vous vous intégrez dans le tissu économique, parce que c'est gagner sa liberté en réalité. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a énormément de travail à faire, et on voit d'ailleurs qu'avec la période cruciale que nous traversons, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, il y a quand même eu un matelas qui a été mis en place pour le gros de la crise, avec un effort très important fait sur l'emploi, sur le développement économique, qui ne suffira pas en sortie de crise, mais qui en tout cas permettait déjà d'amortir autant que possible la situation extrêmement grave que nous connaissons tous, la crise sanitaire donnant lieu bien évidemment à des crises économiques et donnant lieu, en troisième ressort, à des crises sociales, évidemment.
Alexia Germont, pourquoi la laïcité inscrite dans le modèle français depuis 1905 est-elle si mal comprise dans certains pays musulmans, mais aussi dans les pays anglo-saxons ?
C'est une très belle question. Ce n'est pas une bonne question, mais c'est une belle question. Pourquoi ? Parce que ça fait référence aux idées qui sont parfois galvaudées et sur lesquelles, je crois, il faut essayer de mettre de la pédagogie, non pas pour simplifier à outrance, mais pour donner une explication au texte qui permette de comprendre pourquoi on aborde, ce sont deux systèmes, essentiellement de droit d'ailleurs, qui sont totalement différents. Alors, je vais essayer d'expliquer en tout cas ma compréhension. En France, le principe tourne autour de la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État respecte toutes les croyances et n'en reconnaît officiellement aucune. Donc, en quelque sorte, ça fait référence à ces propos d'Aristide Briand qui étaient de dire que l'État est irreligieux. Ça se traduit en France par l'article 1er de notre Constitution qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc on voit bien que l'instrument juridique de la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Bon. Aux États-Unis, la démarche est différente. Aux États-Unis et globalement dans les pays anglo-saxons, l'État n'est pas irreligieux, mais il est confessionnel, ce qui n'est pas pareil. D'ailleurs, dans la devise des États-Unis, on a « In God we trust ». On croit en Dieu, mais on ne croit pas en un Dieu particulier, on croit en un Dieu général, générique. Et ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'aux États-Unis, chez les anglo-saxons, les pères fondateurs de la démocratie américaine en 1791 ont d'ailleurs acté le principe de la liberté de conscience et de la liberté de culte qui sont garantis. Et vous avez la Cour suprême qui instaure le principe, on parle souvent d'un mur de séparation entre les églises et l'État, qui doit finalement protéger les religions contre les interventions étatiques. Et c'est dans ce sens-là que ça se fait. Mais la difficulté, c'est que progressivement aux États-Unis, il y a eu finalement un glissement parce que le système a exigé de l'État non seulement qu'il s'abstienne d'intervenir dans les questions religieuses, mais de surcroît qu'il ne témoigne d'aucune hostilité à l'égard des revendications religieuses. Et on en arrive à une différence fondamentale, c'est qu'aux USA, vous faites référence à la liberté religieuse, qui veut dire que vous avez la liberté de pratiquer un culte et d'afficher publiquement ce culte, tandis qu'en France, vous faites référence à la liberté de conscience et avec, en conséquence, le caractère intime de la foi. Et c'est là où on comprend que les deux systèmes finalement viennent à s'opposer, puisque vous avez en droit, aux États-Unis, vous avez le principe de non-discrimination qui est mis en avant, alors qu'en France, c'est le principe d'égalité devant la loi. Et je trouve que quand on retrace, très rapidement, hein, l'exercice n'est pas facile, mais quand on retrace cette évolution, on voit bien la différence d'approche. Vous partez d'une colonne vertébrale qui est presque commune et finalement, vous arrivez à deux approches qui sont distinctes. Et si vous ne prenez pas le temps de l'explication de texte, en réalité, on ne comprend pas en fait, c'est pour ça que diplomatiquement c'est extrêmement compliqué également et politiquement aussi, on ne comprend pas cette notion de laïcité. D'ailleurs, on n'arrive même pas à la traduire en anglais. Donc comment voulez-vous que ça soit aux États-Unis, que ça soit au Québec, que ça soit aussi dans les pays arabes, on arrive à comprendre cette différence d'approche. Donc en France, on voit bien que c'est la liberté de conscience avec le caractère intime de la foi qui ne doit pas apparaître dans la sphère publique, tandis qu'au contraire, dans les pays anglo-saxons, vous avez cette référence à la liberté religieuse qui s'affiche et qui tente à être préservée au travers du principe de non-discrimination. J'espère que c'est clair, parce que c'est un sujet qui est particulièrement important. Quand on l'explique, je trouve qu'il prend toute sa mesure intellectuelle et qui permet surtout de voir la différence d'approche. Et donc, ce n'est pas forcément les uns contre les autres, mais c'est une explication historique aussi qui donne plus de chair, finalement, à une différence d'approche.
Merci Alexia Germon, je rappelle que vous êtes avocate, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse et vous êtes également élue dans le 15e arrondissement, maire adjointe chargée du développement économique des entreprises et de l'emploi. Bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.